Radio Okapi.
À la une de l'actualité, ouverture demain lundi à New York de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est attendu aux assises, prendra la parole dans un contexte particulier où la RDC subit actuellement une agression du Rwanda voisin. Au Nord Kivu, le village de Katuhunda, dans les territoires de Masisi, est vidé de ses habitants depuis plus de deux semaines. La peur au ventre, ses habitants ont fui les exactions des trois groupes armés actifs dans la zone. Notre invité, c'est le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Ndala, revient sur la montée de la criminalité dans les quartiers de la ville de Lubumbashi après une accalmie. Pendant ces temps, des hommes en uniforme qui devaient quitter les sites miniers n'ont pas bougé des Niota. Madame, Messieurs, bonsoir. La 77e Assemblée générale des Nations unies s'ouvre demain lundi à New York. D'ores et déjà, un dispositif sécuritaire se met en place. En ce moment, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est attendu aux assises, prendra la parole dans un contexte particulier où la RDC subit une agression du Rwanda voisin, selon le directeur adjoint de la presse présidentielle. Giscard Koussema est au micro dans l'Irung Mushige, notre envoyé spécial à New York.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ici, à New York. Et du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République devrait prendre la parole pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. On attend de lui, en tout cas, des prises de position par rapport à la politique interne, par rapport à ces contextes particuliers de l'agression de notre pays par l'un de ses voisins, le Rwanda. En marge de l'Assemblée générale, il y a toujours des réunions multilatérales et bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement, mais aussi de quelques cadres de son cabinet, de ses conseillers. Donc il est là pour cette Assemblée, mais aussi pour toutes ces réunions bilatérales et multilatérales.
Les projecteurs sont également braqués sur le Nord Kivu ou le village de Katuhunda dans la localité de Kalonge, groupement de Nyambaboko, territoire de Masisi, est vidé de ses habitants depuis plus de deux semaines. Selon des sources concordantes, ces habitants ont fui les exactions des trois groupes armés actifs dans cette zone, comme nous l'explique à Goma Gabriel Ouamia.
L'information est confirmée par la coordination territoriale de la société civile et corroborée par le conseil local de la jeunesse. Les sources de la société civile précisent que ces violences seraient commises par les combattants de l'APCLS Nyatura de Janvier Kalahari d'une part et par les Maïmaï Kifuafua dirigés par le général autoproclamé Delphine Mbaenda coalisé au Maïmaï du NDC rénové Ndimendime d'autre part. Ces trois groupes armés se disputent les contrôles d'un carré minier d'or jusque-là contrôlé par les Maïmaï Kifuafua. En grande partie, les déplacés ont trouvé refuge dans les villages environnants de Kinene et Maïa. Les autres ont traversé les limites du territoire de Masisi et ont trouvé refuge dans les groupements voisins de Ufamando 2, dans les villages de Mangere et Tauno, alors qu'une autre vague de ces déplacés est arrivée dans les groupements de Waloa Luanda en territoire de Walikale. Les responsables de la société civile, Voltaire Batundi, affirme que les autorités du territoire de Masisi ont, au cours d'une réunion de sécurité tenue ce week-end au chef-lieu du territoire, décidé le déploiement dans un futur proche des militaires FARDC pour sécuriser la zone.
Gabriel Ouamenia, Radio Okapi, Goma. Insécurité également à Dungu, l'un des territoires de la province du Haut-Uele. Le député national Xavier Bonane Yanganzi attire l'attention du gouvernement central sur la présence ce jour-ci des personnes non identifiées, des personnes qui sèment terreur et désolation dans cette partie du pays. Ce cri d'alarme a été lancé ce dimanche à Kinshasa au cours d'un point de presse. Ces propos ont été recueillis par Paul Matendo.
Avec ce qui se passe à l'Ituri avec le Codeco et ce qui se passe au Nord Kivu avec les EDF, alors il y a des infiltrations qui se manifestent dans les territoires de Dungu, aux environs des localités de Ndanda, des localités de Ligbombi et des localités de Longbo. Eh bien, dans toutes ces localités-là, il y a des personnes armées qui tendent des embuscades et qui enlèvent, qui tuent des gens. Alors nous voulons vraiment attirer l'attention des autorités gouvernementales, des autorités militaires, de veiller sur cette affaire-là, parce que pendant que nous allons être là en train de penser que le danger c'est seulement le Nord qui vous aime l'Ituri, il y a un grand risque que ces gens-là exportent leur violence dans les territoires de Dungu et dans la province du Haut-Touélé.
Une trentaine de personnes blessées, les vitres des trois véhicules cassées, une moto incendiée et une autre emportée. C'est le bilan des altercations survenues vendredi et samedi après-midi entre sympathisants du chef de groupement de Benachimungu dans le territoire de Miabi et un prétendant au pouvoir qui séjournait dans la cité de la province du Kasaï oriental. L'administrateur du territoire de Miabi affirme que des policiers ont été déployés dans la zone pour établir la quiétude. Ambujimaï Esther de la Fina.
L'administrateur du territoire de Miabi affirme que tout a commencé lorsque M. James Kabeya, prétendant au pouvoir de Benachimungu, a quitté la ville de Mbujimayi le vendredi avec un cortège de véhicules qui l'accompagnaient pour se rendre chez lui dans la localité de Boya en passant devant la résidence du chef de groupement de Benachimungu en exercice qui est le seul passage existant. Plusieurs autres sympathisants étaient sur la route pour l'accueillir. Bien avant d'arriver au niveau de la résidence du chef de groupement Didier Chileu, les sympathisants du prétendant au pouvoir ont trouvé plusieurs barricades pour les empêcher de poursuivre leur voyage. S'en est suivi les jets de pierres et les affrontements pour forcer le passage. Les sources sur place avancent le bilan provisoire d'une trentaine de personnes blessées grièvement. Ils sont en train d'être soignés au centre de santé de Benampanda. Il y a eu les vitres de trois véhicules cassés, une moto incendiée et une autre emportée. L'administrateur du territoire indique que 8 personnes ont été blessées et 2 autres arrêtées par la police nationale congolaise pour raison d'enquête. Pendant ce temps, un dispositif sécuritaire est visible dans le groupement de Benachimungu. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, les déplacés fuyant les violences dans les territoires de Kwamout ont reçu hier samedi après-midi des vivres offerts par la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est suite au conflit entre les communautés Teke et Yaka à Bandunduville, Irine Moma.
C'est pour répondre à la recommandation de Allah qui leur demande de manifester l'amour du prochain envers les nécessités que ces membres de la communauté islamique Ahmadiyya de Bandundu ont visité samedi les déplacés de Kwamout se trouvant au site du marché Malebo. Dans leur gibecière, ils leur ont apporté de l'assistance essentiellement constituée d'un lot de vivres, comme l'explique ici Non Ahmed Iwimi, missionnaire de la dite communauté Okwilu.
La communauté a préparé la viande de bœuf, on a préparé ça avec fufu. Nous sommes venus avec ça, accompagnés aussi de 10 sacs de foufou, plus 4 bidons de huile de palme pour assister de déplacer Teke et Bayaka. Notre slogan aussi, l'amour pour tous, haine pour personne. C'est pourquoi la communauté a l'envie d'aider ces gens.
Ce geste est un sujet de satisfaction de la part des bénéficiaires. L'une d'entre elles s'est exprimée en ces mots. Les mots nous manquent. Nous remercions nos frères musulmans pour cette assistance qu'ils nous ont apportée. Nous qui sommes en difficulté, que Dieu les bénisse. Au nom de la communauté islamique Ahmadiyya dans la province de Kwilu, sous la représentation de Maulana Farid Bati, Ahmed Iwimi demande aux autorités attitrées de rétablir la paix à Kwamout afin que les déplacés puissent regagner leur milieu de vie habituel. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Allons maintenant dans la province du Congo central où tout véhicule transportant du carburant doit désormais être soumis à l'expertise et à la validation de l'administration des hydrocarbures. Ainsi en a décidé hier le ministre provincial du secteur. Patrick Yala affirme que cette instruction officielle fait suite aux incendies des produits inflammables. À Matadi, la correspondance de Nana Plurich Mambou.
La note circulaire du ministre provincial chargé des hydrocarbures, Patrick Yala, précise que tout véhicule transportant les produits agricoles doit être soumis à l'expertise et à l'homologation auprès de l'administration des hydrocarbures. Dans ces mêmes documents, Patrick Yala interdit aussi formellement à ces véhicules de circuler, moins encore de stationner pendant les heures de pointe dans les grandes villes, cités et agglomérations de la province. Il est prohibé le transport dans un même véhicule des produits dangereux avec les passagers ou avec les produits agricoles et alimentaires. Il est également interdit le transport des produits pétroliers dans les véhicules non appropriés tels qu'une jeep, un camion ordinaire, une voiture, un bus ou un minibus. et les propriétaires des deux véhicules doivent impérativement détenir une autorisation ou un permis valide de transport et de stockage de produits pétroliers, poursuit cette lettre. Devient aussi obligatoire les symboles et mentions sur tout véhicule transportant les produits dangereux, des réflecteurs avant et arrière signalant produits inflammables, produits toxiques, défense des fumées, ainsi que les noms de la société ou établissement qui les transporte. Les transports de ces matières dans les camions citernes ou autres ne disposant pas d'une fiche de contrôle technique fiable et valide délivrée par les services habilités sont strictement interdits. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Et puis reprise hier samedi au sud Kivu de l'asphaltage du tronçon routier qui va de Kazingo à Amsar dans les territoires de Kabaré. Ces travaux interrompus pendant 2 ans par la société congolaise de construction Sokok s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Radio Okapi Bukavu, Jean Kassami.
Les travaux reprennent après un arrêt brusque survenu depuis 2 ans, et cela suite à la rupture du financement. Le directeur général de la société congolaise de construction Sokok affirme que les moyens sont maintenant disponibles pour les 6 kilomètres sur la route vers l'aéroport de Kavumu, mais aussi pour 6 autres kilomètres de route en plein centre-ville de Bukavu. Les tronçons Kazingo-Amsar bénéficient d'autres ouvrages tels que des ponts, des dallons, des buses et des avaloirs. C'est un tronçon qui longe le lac Kivu sur la RN2 Bukavu-Kavumu. Une fois les travaux achevés, la route qui dessert l'aéroport de Kavumu va totaliser 12 kilomètres asphaltés sur une vingtaine quelconque. L'ingénieur qui conduit les travaux s'est réservé sur la durée des travaux, au regard des intempéries prévisibles avec la saison des pluies qui pointe à l'horizon. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et au Tanganyika, le vice-gouverneur de la province a lancé hier samedi la réhabilitation de 50 kilomètres d'une route de desserte agricole dans les territoires de Kalemie. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sous le contrôle du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Le financement est de la Banque mondiale à travers le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs. Pour en parler, retrouvons à Kalemie pour les Munanga.
Il s'agit du site 1 de l'axe Mamakasanga-Kiamankuku à près de 20 km de Kalemie Centre. D'après les experts, la réhabilitation de cette route s'est faite avec la méthode dite mécanisée. La population salue cette initiative. Pour elle, cette route est d'une importance capitale sur le plan économique. 2 habitants de la localité Mamakasanga donnent les avantages qu'offre cette route. Une fois réhabilitée, cette route va nous aider dans l'acheminement facile des produits agricoles jusqu'à Kalemie. À part l'agriculture, cette route offre aussi d'autres avantages. C'est notamment le développement de plusieurs villages. Nous, les motards, nous avons beaucoup de difficultés, surtout quand nous transportons des charges. Je suis très content pour cette action. Les cultivateurs sont aussi contents parce que les produits des champs seront vite acheminés et cela va beaucoup les aider. Signalons que le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Pikagel a déjà financé la réhabilitation d'une autre route de desserte agricole longue de 56 km. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Sénégal a un nouveau gouvernement formé hier soir après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba, 61 ans. Le nouvel exécutif compte 38 ministres dont 8 femmes et 8 jeunes. Cette équipe gouvernementale est présentée comme un gouvernement des combats avec une continuité et des surprises. La Russie se trouve en ce moment dans une situation délicate sous les plans diplomatiques au sujet de la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine qui cherche des appuis solides au sommet organisé en Ouzbékistan s'est retrouvé hier en face de la Chine et de l'Inde qui exprimaient leur prudence et leur réserve. Le président américain Joe Biden a quant à lui durement mis en garde le Kremlin contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires. Et puis New York abrite ce dimanche jusqu'à mardi prochain la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le Fonds mondial veut ainsi rassembler 18 milliards de dollars américains pour les 3 prochaines années en vue de financer des actions de santé dans des pays à revenus faibles ou à revenus moyens et où les habitants sont exposés au sida, à la tuberculose et au paludisme.
l'invité.
Après une accalmie de quelques jours, des actes de criminalité sont signalés ce jour-ci dans certains quartiers de la ville de Lubumbashi. Désemparée, la population s'en remet aux autorités pour une solution. Entre-temps, l'arrestation d'un chef coutumier du territoire de Sakania défraie la chronique alors que des hommes en uniforme qui devaient quitter les sites miniers ne sont pas sortis. Tentative de réponse à toutes ces préoccupations avec le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Ndala est interrogé par Jean Gandou.
Eric Ndala, bonjour.
Bonjour.
Nous avons remarqué qu'il y a quelque temps, il y a eu une baisse sensible des cas de criminalité. Mais ces derniers jours, dans certains quartiers, il y a davantage de bandits armés qui sèment la terreur et par moments tuent. Quelle est votre politique pour éradiquer ce phénomène qui met à mal la population de cette province?
Nous sommes des amis sur terrain. Nous demandons à la population de dénoncer tous les hors la loi parce que ces bandits mangent avec nous, boivent avec nous, ce sont les amis. Nous demandons à la population de toujours dénoncer les hors la loi et ça va beaucoup nous aider, nous, en tant que l'État, à infléchir la courbe de l'insécurité.
Et nous en sommes à ce qui s'est passé à Sakania, où on dit que vous avez arrêté arbitrairement un chef coutumier qui a été ligoté, maltraité. Qu'est-ce que vous reprochez à ce chef coutumier?
Ce n'est pas un chef coutumier, c'est un usurpateur. Parce que pour se prévaloir d'être chef coutumier, il faut passer par l'élection, il faut passer par l'intronisation et l'installation. Ce qui n'est pas le cas avec notre ami Makoleka. Le soi-disant chef était arrêté à Mopala, où nous sommes allés, et ça faisait 11 ans qu'il était en train d'usurper. Et comment est-ce que le village ou le groupement peut se développer alors que c'est parmi les objectifs du chef de l'État? Vous-même, vous connaissez le projet des 145 territoires. Donc comment est-ce que le groupement pouvait se développer avec ce genre d'attitude? Et nous l'avons interpellé. Nous, ce que nous faisons, c'est dans nos attributions et nous avons le soubassement. Nous avons agi comme l'État et ce n'est pas ces agitations qui vont nous bloquer à ne pas rendre un bon résultat près de la population au Katangaise.
Et monsieur le ministre, c'est vrai que vous les qualifiez d'usurpateurs. Un usurpateur n'a-t-il pas droit à un traitement digne que de prendre quelqu'un comme celui-là, le ligoter et le tabasser? Il ne pouvait pas être arrêté dignement et être amené au cachot sans problème?
Nous avons mené une mission en bonne et due forme et les ordres de mission sont là. Nous sommes allés avec les services de l'ANR, les affaires coutumières. Il y a les chefs coutumiers et membres de l'ANATC. Il y a aussi le cabinet du ministre. Le monsieur est là.
Il n'a pas été ligoté?
Il n'a jamais été ligoté. Parce qu'il est là, vous pouvez vous référer à lui. Je crois qu'il était important de nous contacter, nous, en tant que ministre de l'Intérieur, puiser l'information chez nous, que d'aller prendre des histoires trafiquées dans les réseaux sociaux.
Un autre problème, c'est la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers. La société civile ainsi que plusieurs personnes avaient beaucoup salué la mesure qui avait été prise de les voir évacuer de ces sites miniers. 48 heures étaient données à ces hommes en uniforme. Fort malheureusement, ils sont toujours là. Est-ce à dire que cette décision a été prise précipitamment ou que vous avez des instructions qui vous interdisent, n'est-ce pas, de pouvoir aller jusqu'au fond?
On avait donné 48 heures de libérer volontairement. Et cette fois-ci, nous descendons. Ça sera la force que nous allons appliquer. Donc, cette mesure est d'application d'ici la fin de la semaine. Nous allons débuter notre mission. Qu'on ne vous trompe pas, cette mesure est venue de la hiérarchie et elle est soutenue aussi par la hiérarchie. Nous allons mener cette mission et nous sommes dans l'obligation de restaurer l'autorité de l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous décriez l'insécurité, mais le plus des effectifs se trouvent dans des carrières minières. Et c'est comme ça que nous devons récupérer ces effectifs pour sécuriser la population katangaise.
Il y a combien de sites miniers où on retrouve les hommes en uniforme dans la province du Haut-Katanga?
C'est plus d'une centaine hein, et nous avons identifié, nous, depuis notre bureau et nos enquêtes, nous savons quel site détient la PNC, quel site les FARDC. Nous avons tous ces détails, nous avons la cartographie et c'est le travail que nous étions en train d'abattre. Et maintenant, nous sommes à la fin. Il est question maintenant que nous puissions débuter la mission.
Et la police démêle dans tout ça. Pourquoi ne joue-t-elle pas son rôle?
Cela sera décidé par la commission. Il y a déjà des résolutions que nous avons déjà prises au niveau de la commission que je ne vais pas quand même dire au micro et qui sera connue par après.
Oui, enlever les hommes en uniforme des sites miniers, c'est une chose, mais aussi sécuriser ces sites miniers parce que, bon, ce sont les investisseurs qui viennent et qui se voient envahis par des centaines, voire des milliers de creuseurs qui vont pour voler. Ces gens-là ont aussi besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine protection. Que faire dans ce cas?
Oui, il y a des pistes de solutions que nous avons déjà envisagées, qui seront mises en place. Et nous devons permettre aussi à l'État de générer des recettes, parce qu'il faut se dire la vérité. Ce qui s'est passé, ça ne profitait qu'à un groupe d'individus. Oui, c'est-à-dire que c'était une catégorie de responsables de l'armée et de la police qui percevaient pour leur compte, mais qui ne profitaient pas à l'État. Nous avons même des preuves, même des ordres de démission où ils ont envoyé qui ne sont pas en bonne et due forme. Nous devons aider aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à atteindre ses objectifs. Parce que quand vous voyez les moyens que le gouverneur de la province Jacques Kaboul est en train de débourser pour l'armée et la police, il est de droit que aussi la province puisse générer des recettes.
Eric Ndala, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Ndala, a été interrogé à Lubumbashi par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Pierre-Oué Lameji et Noël Aluzi Tukabambi qui ont apprêté ce menu.